Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous avez publié d'ailleurs votre premier roman, Lézard, en 1957. Dramaturge, scénariste, on sait que vous avez fait très nombreux films qui ont été des succès mondiaux, et notamment avec Louise Buñuel. En 1983, vous avez d'ailleurs eu le César du meilleur scénario pour Le Retour de Martin Guerre avec Gérard Depardieu. Vous êtes également parolier, conteur, occasionnellement acteur.
Agriculteur.
Agriculteur, oui. Vous faites du vin aussi,
oui,
hein. Je me souviens de votre livre, Le Vin Bourru.
Ça m'arrive, oui.
Voilà. Vous venez de sortir deux livres, Désordre, aux éditions André Versailles, et Mémoire espagnole, chez Plon. Et puis vous avez écrit, et c'est pour ça qu'on vous a invité, de très nombreux livres qui touchent à la spiritualité, à la religion. J'en cite que quelques-uns. La force du bouddhisme, avec le Dalai Lama, qui était aussi un énorme succès. Vous avez fait proposé des traductions et interprétations du Mahabharata et de la Conférence des oiseaux, avec Peter Brook. Vous avez écrit deux tomes du Cercle des menteurs, qui sont des contes spirituels absolument formidable chez Plon. Alors, moi, la première.
Et je suis le co-auteur avec Buñuel du seul film qui est traité uniquement de religion, qui est La Voie Lactée.
La Voie Lactée, absolument.
Des hérésies dans la religion chrétienne, oui.
Et puis,
qui m'avait demandé un énorme travail de documentation et m'a permis d'être conférencier dans des grands séminaires.
Absolument. Et puis vous avez aussi fait cette, je ne l'ai pas cité, mais rappelons-le, cette pièce de théâtre qui est devenue un téléfilm formidable aussi.
La controverse de Valladolid. C'est le contraire, c'est le téléfilm qui est devenu une pièce de théâtre.
Ah oui.
Mais enfin, peu importe.
Non, mais c'est bien de le rectifier, mais ouais. Effectivement, je sais que les deux existaient en tout cas.
Absolument.
Alors, tous ces thèmes religieux extrêmement divers, c'est, la première question, c'est tout simple. Au fond, je vous connais depuis longtemps, je sais que vous êtes complètement athée.
Oui.
Et je me dis, comment un athée a pu autant s'intéresser à la religion?
Il n'y a que les athées qui s'intéressent vraiment à la religion. C'est-à-dire qui essaient de dire, de comprendre, de saisir d'une manière ou d'une autre, et en ce qui me concerne d'une manière dramatique avec des acteurs, de saisir ce qu'est ce phénomène étrange qui est la religion. Rien de plus étrange pour un athée que la tendance que nous avons, nous, êtres humains, à croire à la réalité de nos propres inventions. Nous savons très bien que nous avons inventé les dieux, nous savons comment, nous savons où, nous ne savons peut-être pas exactement pourquoi. Et l'étude des religions, aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui, il me semble, ouvre quelque chose sur nous-mêmes. Ne croyant en aucun dieu, ne partageant aucune croyance, vous savez qu'il y en a, je crois, 36 ou 38 000 aujourd'hui en activité, je veux dire des dieux, il est impossible de se rattacher à une secte ou à une croyance quelconque. En revanche, si les religions n'ont rien à nous dire sur Dieu, qui n'existe pas, elles ont beaucoup à nous dire sur nous-mêmes. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Il me semble que dans le champ des activités humaines, l'angle religieux est le plus ouvert de tous. Il est plus ouvert que l'angle social ou politique ou même historique. Car il va de la plus totale sainteté, c'est-à-dire de personnages qui ont traversé l'histoire de toutes les religions avec un rapport particulièrement innocent avec la vie, jusqu'à la plus extrême barbarie et cruauté. C'est ça qui est fascinant. Il semble que la religion, par le fait même qu'elle fait intervenir notre imaginaire, notre imagination, ouvre en nous
tous les possibles,
des territoires que d'autres activités referment.
Est-ce que, enfant, vous avez été élevé dans une religion,
oui,
qui vous a laissé des traces ou...
Oui, bien sûr, je connais la religion catholique de mon enfance, même si dans le village où j'ai grandi, elle ne se pratique plus. L'église est en ruine et il y a maintenant deux prêtres pour, je crois, 35 paroisses.
Redites-nous à quel endroit...
C'est à Colombières-sur-Orbe, dans le département de l'Hérault, c'est le cas dans toutes les campagnes françaises. Le prêtre, le curé du village, était avec l'instituteur et le maire un des personnages importants du triangle qui nous maintenait en vie. La civilisation a complètement changé, les cultures qui faisaient vivre le village ont disparu et la religion avec elle. Il y a maintenant, c'est très étrange que vous me posiez cette question parce que j'étais il y a 10 jours dans ce village, chez moi, dans ma maison qui est en haut du village, il y a la montagne derrière, très peu de gens passent par là. Quand je vois arriver un couple de gens qui me disent « Bonjour monsieur », ils ne connaissaient pas mon nom, ils ne savaient pas qui j'étais. Je dis « Bonjour, est-ce que nous pouvons vous parler un instant ?» J'ai dit « Volontiers, asseyez-vous ». Et je leur dis « De quoi aimeriez-vous me parler ?» Et ils me disent « De Jésus ». Tiens, je me dis, c'est étrange.
C'est des témoins de Jéhovah.
C'était des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'il y a comme des larves, des insectes qui s'avancent sur les ruines d'un grand cadavre. C'est très impressionnant à voir. Vous voyez, comme des vers qui viennent manger le cadavre du catholicisme et s'installer dessus. Et il y a, j'ai appris, du coup, qu'il y avait un centre des témoins de Jéhovah à 15 kilomètres de là. Ce qui n'était inimaginable dans le passé. Ouais.
Et est-ce que ensuite, lorsque vous avez quitté l'enfance et un peu cette région de votre enfance, est-ce qu'il y a eu des moments, je comprends très bien le regard que vous portez distancié, qui analyse, qui observe l'homme religieux, mais est-ce que vous-même, vous avez été touché, non pas par une religion, mais par des émotions devant la nature, devant la beauté du monde, qui vous donneraient l'idée possible d'une transcendance, d'un sacré, de quelque chose, mystère du monde qui fait que votre athéisme, qui ne porte peut-être pas que sur Dieu, mais sur l'invisible, sur l'immortalité de l'âme, aurait été ébranlé?
Pas à ce point-là. Alors, s'il s'agit d'éprouver des émotions en face de la nature, en face d'une œuvre d'art, en face de la rencontre avec quelqu'un d'exceptionnel, un homme, une femme, évidemment.
Des émotions, oui, mais...
Des émotions, je les éprouve tous les jours, j'en vis.
Bien sûr.
Puisque c'est mon métier.
Mais qui vous fait poser une question...
Mais me faisant poser une question sur la transcendance, sur la possibilité de l'existence d'une autre réalité que la nôtre, non, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des scientifiques et je sais que ces autres réalités peuvent exister. Je le sais, mais pas sous une forme religieuse. Les physiciens et astrophysiciens d'aujourd'hui nous disent que non seulement il y a des mondes très très lointains, probablement des milliards d'autres planètes habitables, sinon habitées, où la vie a pu trouver place, a pu apparaître, mais que non seulement il y a ça, mais qu'il y a probablement une multitude d'univers parallèles, c'est-à-dire d'autres dimensions, auxquels nous n'avons pas absolument pas accès. Donc je sais que la réalité qui est la nôtre est très limitée. Je sais que nous n'en connaissons qu'une infime partie. Mais de l'autre côté, ce que les religions nous disent de ce que nous ne savons pas me paraît totalement absurde.
Oui, c'est-à-dire vous vous dites au fond, vous adhérez à l'idée, et effectivement on a reçu des astrophysiciens ici et des physiciens qui ont parlé de la mécanique quantique et de toute cette idée qu'il y a un réel voilé, hein, pour reprendre l'expression de Bernard d'Espagnard, que le monde que nous connaissons est beaucoup plus complexe et mystérieux que ce qu'on peut appréhender immédiatement. Mais vous dites tout le discours sur l'invisible des religions, c'est des mythes.
Ce sont des mythes, ils sont nés de nous-mêmes. Ce sont les hommes qui l'ont inventé, alors que les hommes n'ont pas inventé les univers parallèles. De cela, nous avons des preuves, entre guillemets, scientifiques, c'est-à-dire nous en voyons les conséquences. Nous savons que, dans l'univers, il y a des forces énormes qui provoquent ceci ou cela. Mais nous ne savons pas quelles sont ces forces. Nous les nommons à notre façon. C'est toujours un vocabulaire humain que nous utilisons pour parler du surhumain ou de l'inhumain, de dimensions qui nous dépassent. Alors, je me contente de ma petite terre et de ce que nous pouvons savoir, mais dans ces dimensions-là, je vais aussi loin que possible. Le bouquin que nous avons fait avec Thibaut Damour, qui est probablement le plus grand physicien français, est absolument extraordinaire dans la mesure où, tandis que nous étions en train de travailler, il me disait, tu sais, en ce moment, à côté de toi et très près de toi, il y a des milliers de Jean-Claude Carrière qui disent autre chose, qui te ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas exactement toi. Et il me le disait non pas du tout comme un illuminé ou comme un témoin de Jéhovah, il me le disait d'une manière scientifique, c'est-à-dire qu'il y a, on peut recueillir scientifiquement beaucoup d'indices qui laissent indiquer, qui laissent penser qu'il y a d'autres univers que celui que nous voyons. Si nous avons le temps, je peux vous raconter une très belle image.
Bien sûr.
Que m'a donné Thibaut Damour. Il m'a dit, imaginons que nous sommes dans une maison du Midi de la France, en fin d'après-midi, c'est une pièce calme, les volets sont fermés, elle est obscure, le soleil se couche, et par un trou d'un des volets passe un rayon du soleil couchant. Nous sommes dans l'ombre, et dans ce rayon du soleil, nous voyons des poussières qui s'agitent, des quantités de grains de poussière qui s'agitent. Eh bien, il me disait, nous sommes dans ce rayon-là. Mais dans la pièce obscure qui nous entoure, il y a mille, des milliards d'autres présences que nous ne pouvons pas percevoir. Je lui dis, il me dit, est-ce que tu peux admettre ça? Oui, je peux, l'image me paraît très belle. Maintenant, allons plus loin, me dit-il. De cette pièce, tu enlèves les murs, le plafond et le plancher. Et tu as une première image de ce que nous percevons, nous, scientifiques, des univers dans lesquels nous vivons. L'image est magnifique, parce que tout à coup, on est pris d'un certain vertige. Il est bien évident que si là-dedans, on vient nous raconter l'histoire d'un serpent qui a fait manger une pomme à une femme, tout cela nous paraît, oui, mythique, amusant quelquefois, divertissant.
Profond parfois,
très
d'ailleurs.
Instructif sur nous-mêmes. Oui. Par exemple, dans la mythologie chrétienne, le péché originel, qui d'ailleurs n'est pas de l'origine, le péché originel, c'est arrivé plus tard. Mais le péché originel est une notion extraordinaire, dont nous avons beaucoup parlé avec des théologiens, avec Buñuel, avec José Bergamín, qui était un des derniers grands représentants du catholicisme espagnol, un homme que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie de dire aux humains: quand vous naissez, quand vous venez au monde, vous êtes coupable. Voilà. La première chose, vous êtes coupable. Coupable de quoi ? Coupable. Mais c'est une notion extrêmement passionnante si on veut définir un sentiment obscur, caché, que nous avons tous en nous, de cette culpabilité-là qui viendrait, étrangement, d'un désir de connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce mythe-là, sur lequel il m'est arrivé d'écrire et même de donner quelquefois des conférences ou des rencontres, est tout à fait fascinant par ce qu'il nous dit sur nous-mêmes.
Mais alors, est-ce que vous pensez que c'est parce que le mythe a été inventé qu'il a créé une culpabilité chez l'homme, ou est-ce que l'homme ressent de manière naturelle une culpabilité, qu'il a inventé ce mythe pour parler de cette culpabilité?
Je crois que c'est la deuxième solution qui, à moi, me plaît le plus. Comme si une théorie pouvait être plaisante, non? C'est vrai que, probablement, si le péché original a tellement marché, a été tellement fort, si on peut dire, a eu tellement de succès, entre guillemets, c'est parce qu'il correspond à quelque chose en nous, en tout cas, en un certain nombre d'entre nous, et j'ai presque envie de dire à notre culture, à notre civilisation.
Parce qu'en Orient, il n'y a pas tellement.
Non, ça n'existe pas du tout, ça n'a jamais pu marcher, cette idée d'un péché originel et d'une culpabilité fondamentale. Mais l'idée que l'homme est coupable d'être sur la Terre, si on le rapproche aujourd'hui des préoccupations écologiques, de toutes les menaces qui sont autour de nous, c'est un sentiment ancien, très éclairant sur notre condition, absolument passionnant, si on examine l'écologie du point de vue du péché originel.
Lélie Anvar, bonjour.
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 En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas tout à fait dans votre raisonnement, parce que ce que vous nous avez dit de votre discussion avec votre ami physicien prouve que vous prêtez foi à sa parole, parce qu'il utilise, pour vous l'expliquer, vous avez appelé ça une belle image, c'est-à-dire en fait une métaphore, et par extension, une forme de mythe. Il donne une forme métaphorique, mythique, à quelque chose dont vous nous dites qu'elle est une vérité, parce qu'elle est scientifique. Mais en attendant, vous et moi, jusqu'à nouvel ordre, nous ne pouvons absolument pas vérifier ce qu'il nous dit. On prête foi à ce qu'il dit, parce que nous pensons qu'il a une expérience scientifique de cette vérité-là, et que donc, et en même temps, l'image qu'il utilise pour l'exprimer est très belle, elle nous touche et elle résonne en nous, et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vérité là-dedans.
Vous avez
alors,
tout à fait raison.
Je voudrais juste aller jusqu'au bout du raisonnement. Et en même temps, vous dites, non, en fait, les religions ont inventé des mythes parce qu'il fallait bien... Vous voyez, vous ne dites pas, ils ont donné une forme, peut-être, à une vérité qui est du même ordre que la vérité du physicien. Simplement, les religions, et je dirais encore plus profondément, parce que les religions ont peut-être eu aussi des implications politiques, mais les grands spirituels que vous avez vous-même, dont vous avez traduit au moins un, même plusieurs, mais enfin je pense à Rumi que vous avez traduit avec...
On va dire fréquenté.
Fréquenté absolument, très, très bien d'ailleurs, ou la conférence des oiseaux, ce sont des... Pourquoi ne pas penser que les grands spirituels sont aussi, comme les physiciens, des gens qui ont accès à quelque chose qui est véritablement qui est une vérité au sens où il y a des vérités scientifiques, et que simplement, comme on ne peut pas faire autrement que de les transmettre sous forme de métaphores et de mythes, ils sont bien obligés de nous en rendre compte dans un langage humain. Ça ne veut pas dire que la vérité, elle, est inventée. Ça veut dire que le langage, le mythe, la représentation que nous sommes obligés d'en donner, que sont obligés d'en donner ces gens qui ont fréquenté ce que je, par défaut, j'appellerais le vrai, eh bien, le langage est forcément une invention parce qu'elle est humaine et parce qu'ils sont bien obligés de nous le communiquer d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi vous séparez les deux.
Alors je vais vous répondre, si vous me permettez, je vais faire deux remarques sur ce que vous dites, car c'est vous qui êtes contradictoire. D'abord, les scientifiques n'ont jamais dit qu'ils avaient atteint le vrai. Jamais. Aucun scientifique
non,
dit qu'ils atteignent des vérités scientifiques.
Oui, c'est quand même des vérités.
Oui, des vérités scientifiques, c'est-à-dire qui, dans leur champ d'expérience, peuvent être prouvées selon des critères qu'ils ont eux-mêmes fixés. Oui,
et ils sont reproductibles.
Absolument.
Ils n'ont jamais prétendu...
Oui, oui. Mais je crois que l'expérience des mystiques aussi, c'est du même ordre.
Des mystiques peut-être, mais pas des religions.
Ah non, moi, c'est pour ça que j'ai précisé. J'ai dit, mettons de côté les religions, mais les mystiques. Voilà.
Alors, ça c'est la première chose, c'est que on vous dira, il y a des vérités scientifiques, comme moi je peux vous dire qu'il y a des vérités dramatiques. Mm-hmm. Il y a, quand on écrit un scénario, une pièce de théâtre, des moments où une vérité apparaît. Une vérité dans les relations entre les personnages que nous avons inventées, que nous avons mis en rapport. Cette vérité-là, elle ne va pas plus loin que le théâtre ou le film. C'est une vérité dramatique. L'aspect mythique de la science, il existe, absolument. D'ailleurs, Lévi-Strauss l'a dit lui-même. Il a dit le Big Bang, c'est un mythe. Et en effet, les récits des origines, vous savez que le Big Bang, c'est une dénomination qui a été donnée par un astrophysicien qui n'y croyait pas.
C'est péjoratif au départ.
C'est péjoratif, c'est dérisoire. Donc. Et c'est vrai qu'il y a un aspect mythique dans le Big Bang, à part que ce mythe peut constamment être remis en discussion. D'ailleurs, le Big Bang, comme vous le savez, est né dans l'esprit d'un prêtre belge, le père Lemaire. Et cette idée d'une explosion à partir de rien, à partir d'un point si infime que pour nous il n'est rien et qui a donné naissance à l'univers, est évidemment à quelque chose d'un récit mythique. Se rapproche beaucoup de certains mythes amérindiens, par exemple, où l'univers naît tout à coup d'une petite boîte qui s'ouvre et d'où jaillit la lumière. Il y a de ça, le besoin d'un début, d'une création, d'un commencement. D'ailleurs, il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup qui dit « Dieu est toujours au commencement ». Quand les choses durent, il a tendance à s'en aller, à se retirer. Mais vous avez tout à fait raison, il y a un aspect mythique dans la science. La seule différence, c'est que les scientifiques en sont très conscients. Ils sont très conscients, ils le disent tous, enfin, tous ceux qui sont dignes de ce nom et que j'ai rencontrés, tous conscients de travailler dans le provisoire, dans l'éphémère, et que tout ce qu'ils peuvent avancer aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne parlent jamais de vérité, mais de consensus. Ils disent à un moment donné, aujourd'hui, voilà, nous sommes... Tous ceux qui pratiquent cette discipline, nous sommes d'accord pour dire que. Il n'empêche que certains d'entre eux, même certains astrophysiciens, ne peuvent pas rejeter totalement le principe d'un ordre, c'est-à-dire d'un donneur d'ordre dans l'univers. Le fameux principe anthropique selon lequel l'univers a été créé pour que finalement nous puissions en discuter, vous et moi, aujourd'hui, ce qui est quand même une prétention absolument, absolument folle, existe. Et certains astrophysiciens ne s'en sont pas totalement délivrés.
On a reçu ici Tringsantuan, qui croit tout à fait au principe anthropique.
Il dit
c'est ce qui m'apparaît le plus plausible et rationnel. Il n'est pas chrétien, il est bouddhiste.
Oui, mais il est bouddhiste et très discuté, comme tu sais, par d'autres astrophysiciens. Il n'y a pas consensus là-dessus. Il y a consensus sur d'autres éléments. Alors maintenant...
Vous avez raison que les religions, évidemment, n'ont pas du tout cette brèche du doute dans leur pensée, ça c'est sûr, mais les grands spirituels, si.
Oui.
Le hattar ne fait que ça, sans cesse déplacer les lignes.
Écartons les religions.
Je parle de spirituel.
Ça, ce sont des dogmes. À partir du moment où un dogme existe, il est faux.
Et puis vous êtes intéressé essentiellement au spirituel.
Il ne veut rien dire et jamais des scientifiques ou des mystiques n'accepteraient des dogmes. D'ailleurs, des poètes comme Hattar ou Rumi ont rejeté les dogmes, mais même Rumi allait, comme Shams de Tabriz, jusqu'au blasphème, accueillait le blasphème comme bienvenu dans certains cas.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Jean-Claude Carrière et nous avons déjà une discussion passionnante et très animée avec Lélie Anvar sur l'expérience scientifique et l'expérience spirituelle, l'expérience mystique. Vous étiez tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, si on met de côté la certitude de dogme religieux, il peut y avoir effectivement des vérités qui sont atteintes finalement par l'expérience intérieure. Sauf que la différence, et là je rejoins un peu Jean-Claude Carrière, je comprends très bien, Lélie, ce que vous voulez dire, mais je pense qu'il y a une différence entre l'expérience scientifique qui est quand même reproductible et l'expérience intérieure qui n'est pas forcément reproductible. Quand vous faites une expérience mystique, c'est très subjectif, c'est très personnel. Alors évidemment, vous pouvez dire des choses que d'autres pourraient faire des expériences similaires, mais ce ne sera pas du même ordre que la connaissance par l'expérience scientifique qui est reproductible en laboratoire dans tous les points du monde. Il y a une forme d'objectivité plus grande quand même de l'expérience scientifique que de l'expérience mystique.
Oui, l'objectivité. Il y a certaines choses qui sont reproductibles, mais ce que vous venez de dire, ce qui est très très beau d'ailleurs, quand il disait il y a des milliards d'autres êtres, ça c'est pas reproductible, c'est pas prouvable, c'est... Voilà. En fait, quand la science touche à ce qu'on a appelé tout à l'heure l'invisible, ou cette chose comme ça qui est un horizon finalement, c'est peut-être ça l'essentiel, c'est que ce soit l'horizon. Quand la science nous parle de l'horizon de sens, elle n'est ni reproductible ni prouvable.
On peut faire ce que Einstein appelait des expériences de pensée.
Exactement.
Oui, en fait, ça, ce sont des expériences de pensée. Tout à fait passionnant. Naturellement, on ne peut pas manipuler les étoiles en laboratoire, hein, mais on peut faire des expériences de pensée. J'ai assisté à quelques-unes qui sont tout à fait fascinantes. Maintenant, je vais aller dans votre sens. Revenons au mystique un instant.
Tout à fait.
On dit les expériences mystiques ne sont pas reproductibles, et c'est vrai. La science dit si on reconstitue les mêmes conditions, les mêmes phénomènes se produisent. Bon, c'est ça le principe même de la science. C'est pas du tout la même chose dans le domaine. Et pourtant, on retrouve dans des esprits, je dirais pas mystiques, je dirais poétiques, hein, c'est-à-dire des gens qui ont recherché dans l'expression musicale, verbale, picturale même quelquefois, des inédits. C'est-à-dire des choses que la parole ne peut pas dire, normale, la parole rationnelle, la parole organisée. Je vais vous citer un exemple. Vous parliez de Rumi. La première phrase du Masnavi, qui est le Coran mystique pour les chiites, et qui est un livre absolument magnifique.
Pour les persanophones.
Oui, pour les persanophones. Oui. Et la première phrase, il dit « Écoute le gémissement de la flûte que l'on sépare du roseau, plutôt de la roseraie. » C'est-à-dire, la flûte, on coupe un roseau, on le tranche, on le sépare de sa famille, de son milieu, pour en faire une flûte. Il souffre de cette séparation. Mais pour devenir une flûte, pour devenir un instrument de musique, il faut se séparer. Il faut accepter cette coupure, cette souffrance. Dans une lettre de Rimbaud, qui n'avait aucune chance de connaître Rumi, qui n'était pas traduit à cette époque, on trouve cette phrase extraordinaire « Tant pis pour le bois qui tourne au violon ». Le bois qui tourne au violon va énormément souffrir. Il va être contourné, brûlé, tordu, mais à la fin, il sera un violon. Quelque part, là, j'y vois une rencontre au sommet.
Ah oui, alors là, effectivement, vous touchez à une autre question, qui est l'universalité de l'esprit humain, qui peut percevoir les mêmes choses
absolument, par
dans toutes les cultures, par des expériences intérieures.
Mystiques, et qui sont en réalité poétiques, bien sûr. Oui. Et qui peuvent naître à la fois dans un milieu religieux, comme c'était le cas de Rumi, que dans un milieu parfaitement païen, comme c'était le cas de Rimbaud.
Lélie Anvar.
Alors justement, vous avez parlé de l'expression, du langage dans lequel les poètes... j'adhère totalement à ce que vous dites. Je pense effectivement que les mystiques sont des poètes et les poètes sont des mystiques. Et c'est la chose. Ils sont inséparables. En tout cas, vous avez parlé de l'importance des poètes. Et j'ai apporté un texte de vous, en fait, qui est inspiré justement de Attar, dont nous venons de parler. Le prédécesseur, l'inspirateur de Rumi. Donc poète persan de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, qui a écrit donc cet ouvrage majeur qu'on a traduit de différentes façons, mais enfin vous avez opté pour le Mantérotel, voilà, vous avez opté pour le titre La conférence des oiseaux.
C'est et vous ou en la avez parole fait, ou la conférence
le langage,
ou l'assemblée des oiseaux.
Absolument, ou le langage.
Ou langage oui, la parole et le langage. Oui.
Et donc voilà, alors vous en avez fait un très beau scénario dramatique, une pièce en fait de théâtre que vous avez monté avec Peter Brook il y a déjà très longtemps. J'ai grand regret qu'il n'y ait pas eu captation de ce spectacle, parce qu'on m'en a toujours parlé comme étant vraiment un spectacle inouï. Et voilà, bon, pour remplir ce regret un petit peu, je vous propose une lecture d'une parabole qui est donc dans cette conférence des oiseaux. C'est la parabole des papillons. Et ça résume un peu ce que cet échange que nous venons d'avoir. Un jour, les papillons se réunirent, tourmentés par le désir de s'unir à la bougie. Un premier papillon alla jusqu'au château lointain et il aperçut à l'intérieur la lumière d'une bougie. Il revint, raconta ce qu'il avait vu. Mais le sage papillon qui présidait la réunion dit que cela ne les avançait guère. Un deuxième papillon alla plus près de la bougie. Il toucha de ses ailes la flamme et la bougie fut victorieuse. Il revint, les ailes brûlées, et raconta son voyage. Mais le sage papillon lui dit « Ton explication n'est pas plus exacte. » Alors, un troisième papillon se leva, ivre d'amour. Il s'élança sur ses pattes de derrière et se jeta violemment sur la flamme. Ses membres devinrent rouges comme le feu. Il s'identifia avec la flamme. Alors le sage papillon, qui avait regardé de loin, dit aux autres « Il a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend. » Et voilà tout.
Oui, cette parabole très, très célèbre d'Attar que Rumi reprendra d'une autre façon, elle est presque indépassable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, si on analyse tous les termes, à commencer par le désir commun de s'unir à la flamme de la bougie. Il faut qu'il y ait cet amour. La plupart des gens qui vivent autour de nous n'ont aucun désir de sortir de leur condition, de connaître, d'apprendre, d'aller vers quelque flamme que ce soit. Et puis les trois étapes de la connaissance qui se terminent par l'inexprimable, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas communiquer, bien que probablement l'ayant à un moment donné appris, c'est-à-dire la mort. La disparition, la calcination. Quelque chose de très intéressant à propos de l'interprétation. La dernière phrase du sage papillon, il dit « il a appris ce qu'il voulait savoir ». Il y a plusieurs façons de le jouer pour le comédien qui le joue. L'une est de dire, comme vous l'avez fait, de manière assez simple, presque pathétique, « il a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend ». Et voilà tout. Mais il y a aussi une façon comique de le dire. « Il a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend, et voilà tout ». Et ça fait rire le public. Donc c'est, vous voyez, quelquefois le même texte dit dans des circonstances très différentes par des personnages qui ne sont pas les mêmes peut amener des réactions complètement diverses chez les spectateurs. Cette pièce, nous la jouons avec ma femme de temps en temps, nous la lisons avec un musicien et je vois, c'est très intéressant de voir les réactions que peut susciter parmi un public tout à fait non prévenu, je dirais, ce texte-là. C'est très surprenant, mais il est très beau et très difficile à commenter pour la raison que il semble qu'Attar a trouvé là une métaphore, j'allais dire sublime, mais je le pense.
Oui, absolument. Ouais.
Je voulais aussi vous poser une question sur les rencontres que vous avez faites dans votre vie avec des hommes religieux ou des hommes spirituels. D'ailleurs, je crois qu'on s'était rencontrés une des premières fois il y a 15 ans à l'Institut Karmaling auprès du Dalai Lama et d'un certain nombre de chamans, de représentants des peuples premiers. On a fait une journée formidable ensemble.
La journée des rituels.
Voilà. Et donc, vous avez rencontré dans votre vie, et puis je suis sûr que vous en avez rencontré dans tous vos voyages et tous des hommes spirituels. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Pourquoi?
Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par homme spirituel?
Des hommes, disons,
spiritualité. Je me méfie beaucoup de ce mot, parce qu'on le confond souvent avec religion. Pour moi, la spiritualité est plutôt le contraire de la religion.
Oui, mais il existe aussi de la spiritualité dans la religion.
Je me demande.
Alors, le Dalai Lama, par exemple.
Parce que la spiritualité vient d'esprit.
Oui.
C'est la vie de l'esprit.
Tout à fait.
Alors,
ça peut exister dans et en dehors de la religion.
Et vous et moi, et les scientifiques, nous ne travaillons qu'avec notre esprit. Donc nous sommes des êtres spirituels, par définition. La religion, qui impose un dogme et souvent des catéchismes, détruit la vie de l'esprit, l'annihile, l'empêche, la contrarie en tout cas, puisqu'elle oblige votre esprit à se canaliser dans des chemins déjà tracés avant qu'il intervienne.
Oui, mais paradoxalement, je suis d'accord avec vous, et on retrouve quand même dans toutes les traditions religieuses des esprits qui ont finalement ont su s'émanciper,
des mystiques.
Oui, mais pas que des hérétiques, des mystiques, voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire des spirituels au sens d'individus comme Françoise Assise et Rumi et bien d'autres qui ont su, à l'intérieur d'une culture extrêmement codifiée, garder un certain nombre de codes et s'émanciper par plein de ruses
des dogmes
pour vivre une expérience
comme
émouvante.
Oui, je dis
et qui nous touche encore aujourd'hui.
Même à l'intérieur des religions, on trouve quelques esprits poétiques qui ont réussi à y échapper.
Alors, Saint-Jean de la Croix,
par exemple,
une poésie bouleversante.
Ah oui, ça, le Thérèse d'Avila, enfin le fameux Ah, que no puede faltar el pas de Sardegna, que vous connaissez, ces deux vers magnifiques de la grande Thérèse.
Alors, ma question, c'est, vous avez rencontré, alors on va dire à l'intérieur des religions, pour être plus précis, des esprits forts, des gens qui ont vécu des expériences. Vous avez rencontré des chamans, vous avez rencontré des bouddhistes tibétains, des maîtres zen, vous avez rencontré peut-être des prêtres. Donc ma question,
beaucoup de grands hindouistes.
Voilà.
Est-ce que Shankaracharya en particulier.
C'est pour ça que je vous pose la question. Eh ben voilà, lesquels vous ont le plus marqué et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a touché? C'est ceux qui vous apparaissaient les plus authentiques et les plus forts, dans les plus émouvants.
Ceux qui s'éloignaient le plus du dogme a commencé par les bouddhistes. C'est-à-dire le bouddhisme n'a pas, il a un enseignement. Il est considéré souvent comme
qui n'est pas dogmatique par essence même,
mais qui n'est pas dogmatique. Il n'y a pas un certain nombre. On ne signe pas au bas d'une page en disant qu'on adhère au bouddhisme comme on adhérerait aux témoins de Jéhovah, là-bas, ou aux évangélistes aujourd'hui, bien entendu. Donc, c'est le plus accueillant dans la mesure où ce que j'aime beaucoup dans le bouddhisme, c'est qu'il vous dit de mille façons. Nous avons notre expérience, nous avons nos textes, c'est même là. Tradition qui a le plus grand nombre de textes existants, je crois. Dans les bibliothèques bouddhistes sont immenses, celles qui sont au Tibet en particulier, qui a été longtemps la bibliothèque du bouddhisme. Si dans votre tradition, que je ne vous demande pas d'abandonner, qu'elle soit catholique, chrétienne, hindouiste, musulmane, athée, elle est une tradition. Donc restez-y, si quelque chose vous manque dans cette tradition, peut-être nous avons une autre manière de poser les questions et voir quelques réponses auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est ce que j'aime beaucoup dans le bouddhisme. Vous parliez du chamanisme, ce n'est pas une religion. J'ai envie de dire que le chamanisme, c'est presque une pratique de divination et de médecine,
de guérison,
dans bien des cas, qui étrangement, quand nous avons participé à ces... assisté à ce long défilé de... Je dis long parce qu'à un moment donné, j'étais assis à côté du Dalai Lama, il y avait 8000 personnes, vous vous rappelez. J'ai senti un petit poids sur mon épaule droite et sa tête venait de s'y poser. Il s'était endormi sur mon épaule après plusieurs heures de...
Alors je suis resté comme ça avec
le Dalai Lama endormi sur mon épaule, m'efforçant de ne pas le réveiller. Mais ce qui est très amusant depuis ce temps-là, c'est que, comme vous le savez, le chamanisme est à la mode.
Ah bah complètement,
il est revenu à la mode.
Ça intéresse les
On n'en parlait plus. Si vous vous rappelez, dans cette réunion, il y avait même une femme chamane de Sibérie. C'est-à-dire que le chamanisme avait été étouffé, bien entendu, par le pouvoir communiste pendant très longtemps. La chute du communisme faisait ressurgir des traditions chamaniques qui avaient été jusque-là, qu'on croyait oubliées, mais qui ne l'étaient pas. C'était tout à fait fascinant. Alors, il y avait des choses amusantes. Par exemple, dans la tradition de la religion aztèque, précolombienne, il y avait deux groupes qui s'opposaient l'un à l'autre, qui n'étaient pas d'accord sur la formule qu'il fallait adopter, le rituel qu'il fallait suivre, etc. C'était pittoresque, ça n'allait guère plus loin que ça. Je n'ai pas ressenti dans ces spectacles qui m'étaient offerts.
Mais en dehors de ça, vous avez dû rencontrer, j'en reviens à ma question du début, même des hommes pas forcément connus au-delà des grandes réunions. Des gens qui vous ont touché.
J'ai rencontré des paysans, j'ai rencontré des gens très simples qui quelquefois m'ont dit des choses qui m'ont bouleversé beaucoup plus que telle ou telle grande autorité. J'ai fait plusieurs séjours chez des Indiens amazoniens et même un, il y a plus de 20 ans de ça, chez les Yanomami, qui étaient, à l'époque, on venait de les découvrir 4 ans plus tôt, donc ils étaient au paléolithique, même pas au néolithique, avant toute espèce d'invention humaine, avant l'art, avant la religion. Et c'était tout à fait fascinant d'être avec eux, sans pouvoir parler leur langue, mais de les écouter le soir, parce que je voulais savoir ce qu'ils faisaient la nuit. Je vivais avec eux dans une maloca, c'est-à-dire une grande hutte végétale, et les nuits tropicales durent 12 heures, on peut pas dormir 12 heures. Donc je voulais savoir, pour les besoins d'un film, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le restant de la nuit. Eh bien, ils se racontent des histoires. Pendant 4 ou 5 heures, tous les soirs, de hamac à hamac, des petits groupes familiaux, dans le groupe où j'étais, ils étaient à peu près 70, ils se racontent des histoires, et c'est absolument fascinant. C'est une émotion, vous êtes au début du monde. Vous écoutez les mythes dans une langue qu'on ne comprend pas, mais dans laquelle on reconnaît, par exemple, des des bruits d'animaux, le bruit du vent, le bruit de l'eau, vous voyez, tout cela autour de vous, dans cette tente, dans la nuit de la forêt amazonienne, ça, ce sont des émotions absolument inoubliables, parmi les plus fortes que j'ai vécues de ma vie, c'est vrai.
Et est-ce que le fait d'avoir fréquenté les bouddhistes vous a donné envie, par exemple, de pratiquer la méditation ou pas spécialement ?
Je le pratiquais déjà. La méditation, parlons un peu de la méditation qui est souvent mal interprétée. On parle de la méditation comme s'il s'agissait d'atteindre une réalité supérieure. La méditation, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui travaillent avec leur esprit, ce fameux esprit que la tradition hindouiste et bouddhiste présente toujours comme extrêmement agité, indiscipliné. Les bouddhistes disent c'est une maison ouverte à tous les vents. Krishna dans la Bhagavad Gita dit il est impossible de maîtriser l'esprit, ce serait comme apaiser le vent, c'est impossible. La méditation est une technique pour apaiser l'esprit. Et il y a plusieurs types de méditation. Moi j'ai commencé par l'hindouiste, le bouddhiste. Donc ça c'est une expérience très fascinante d'arriver à se débarrasser non pas de l'esprit, mais de l'agitation de l'esprit. C'est-à-dire d'arriver à un moment donné à oublier tout ce à quoi on peut travailler, tout ce à quoi on peut penser, les questions à l'ordre du jour, de politique, de société, de travail personnel, même de santé quelquefois, pour arriver à l'esprit même. Ça, c'est quelque chose de fascinant parce qu'à ce moment-là, et c'est la même chose dans toutes les techniques de méditation, on se rend compte que l'esprit et le corps ne font qu'un. On arrive à un point secret de notre être où on est un, où on est quelque chose qui ne peut pas se séparer. Ça, on en ressort quand ça ne dure pas très longtemps en général. Là, c'est assez difficile à atteindre parce que évacuer tous nos soucis et toutes nos pensées, arriver à ne pas penser est une chose très difficile. Et quand Descartes dit « je pense, donc je suis », est-ce que ça veut dire que je ne pense pas, donc je ne suis pas ? Est-ce que le contraire est vrai ou est-ce qu'on peut dire j'arrive à ne pas penser, par conséquent je suis vraiment à ce moment-là, je touche mon être profond, c'est une question que nous laisserons sans réponse.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Jean-Claude Carrière. Alors Jean-Claude Carrière, nous avons déjà fait un petit parcours avec vous. On a parlé de vos rencontres avec des chamans, avec le Dalai Lama, avec des bouddhistes. On vient d'écouter un peu de chant grégorien. D'ailleurs, c'est vous-même qui avez choisi cet extrait de Solemn, je crois.
C'est très beau.
C'est très beau.
Il y a des choses absolument magnifiques et qui, justement, ont une possibilité d'apaisement. Je trouve que le chant grégorien, tout à coup, me vide d'une certaine fièvre.
Ce qui prouve que dans des religions dogmatiques, on a pu quand même laisser place à une expression artistique qui peut nous toucher tous.
Mais le christianisme connaît de grands écrivains, ne serait-ce que Pascal, Saint-Augustin ayant été le premier d'ailleurs des écrivains, de bons écrivains chrétiens.
Et est-ce que vous avez lu les évangiles et qu'est-ce que vous dit ce texte ?
Qu'est-ce que vous me racontez si j'ai lu les évangiles ? Vraiment.
Quelle honte !
Pour qui me prenez-vous ? Je les ai travaillés même, j'ai même lu d'autres évangiles que les évangiles canoniques, et y compris l'évangile selon saint Thomas, qui serait le premier en date, et qu'on a trouvé, que l'archéologie a trouvé finalement au XXe siècle, alors qu'on n'en avait que des lambeaux tout au long de l'histoire, qui est le plus beau de tous. Parce qu'il y a, dans l'évangile selon saint Thomas, qu'il n'y a que des paroles. Il n'y a que les dits de Jésus, il n'y a rien de la rédemption, rien de la crucifixion, aucune action. C'est l'action, comme si l'action avait été rajouté plus tard. Vous voyez, les évangiles, on le sait, ont été écrits après la mort de Jésus.
Mais est-ce qu'il y a des paroles des évangiles qui vous ont marqué?
Alors, les évangiles sont, comme tous les textes sacrés, contradictoires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y trouve tout et son contraire. Il faut qu'on y trouve, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui sépare activité spirituelle et matérielle, et il faut qu'on y trouve. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, c'est-à-dire il réunit les deux pouvoirs. À nous de débrouiller, pas, il faut y trouver son bien, et chacun s'inspire de ce qu'il y trouve. C'est le cas aussi de la Bhagavad Gita, de beaucoup de textes sacrés. Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit à Arjuna, va et répand tout ce que j'ai dit, dis-le à tous les hommes, comme le Christ, et trois strophes plus loin, lui dit, surtout ne dis pas un mot de ce que je t'ai dit. Alors, à nous de choisir. Dans les évangiles, il y a des passages que je n'aime pas du tout, en particulier le serment des béatitudes que je trouve odieux, de dire aux hommes, restez pauvres, pauvres, les pauvres auront droit au paradis, restez pauvres en esprit, etc. Cultivez l'ignorance, tout ça me paraît absolument
trop
dur.
Non, je suis pas d'accord.
Bien heureux les pauvres en esprit.
Non, mais les pauvres en esprit, c'est les humbles.
Oui,
c'est
non, ce n'est pas les humbles.
Ah, si, si, je suis pas du tout d'accord.
Il y a un éloge à la fois de la pauvreté
et
physique.
Et puis, on dit heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Ben, c'est magnifique d'être un cœur pur, un artisan de paix.
Bien heureux les pauvres et bien heureux les pauvres en esprit.
C'est les anawines, c'est-à-dire ceux qui sont humbles devant Dieu. Ah non, je suis pas du tout d'accord sur l'interprétation.
Ben oui, mais je suis pas d'accord du tout, même s'il s'agit d'humble devant Dieu. Car je trouve que ce rabaissement de la condition humaine est indigne d'un texte aussi célèbre. En revanche, il y a des phrases du Christ, comme par exemple « Laissez les morts ensevelir les morts », que je trouve très belles. De temps en temps, il y a un éclair comme ça, où on sent une parole forte derrière.
Ou la parole de la femme adultère, j'imagine.
Par exemple,
celui qui n'a jamais péché,
bien sûr,
la première
pierre. Très, très fort, oui, oui.
Enfin, on sent que c'est pas un texte qui vous a bouleversé. C'est pas, vous avez vu, probablement eu d'autres textes sacrés qui vous ont beaucoup plus touché.
Oui, peut-être, mais... Peut-être, je ne le mettrai pas au premier plan. Vous savez que les Romains n'aimaient pas les évangiles, trouvaient de petites historiettes tout à fait quelconques, et ce n'est qu'à partir de Saint-Augustin qu'on a trouvé qu'il y avait de bons écrivains dans la tradition chrétienne. Les Romains ignoraient complètement et rejetaient les évangiles, trouvaient ça tout à fait quelconque, comme de petites fables. Alors c'est nous qui leur avons donné à ces textes que nous avons soigneusement choisis et réécrits, que nous avons donné la force et le rayonnement qu'ils sont encore aujourd'hui. Bien qu'ils soient en train de perdre, semble-t-il. Mais non, j'irai plutôt moins vers certains textes bouddhistes et la Bhagavad Gita et des textes de hindouistes. Oui, plutôt.
Léon Vard.
Oui. Alors, en fait, en vous écoutant, j'ai l'impression que plus qu'athée, vous êtes un peu païen. Ce qui n'est pas un reproche. Hein.
Non, au contraire, c'est un compliment.
Voilà, c'est-à-dire que, à la fois dans cet accueil, parce que c'est vrai que chez les Grecs comme chez les Romains, il y avait cette obligation d'accueillir après tout, toutes les religions. Et c'est le propre du paganisme que de vivre comme ça, avec ce mélange de dieux qui se bouscule dans votre tête ou dans votre cœur, et de mettre aussi si haut, finalement... l'immanence pour laquelle vous optez très très clairement.
Bien sûr.
Nous allons en parler il n'y a pas longtemps sur cette antenne. Et donc je ne regrette pas donc d'avoir choisi un texte de Borges qui est en fait un texte extrait de l'Aleph, un ouvrage que j'aime particulièrement en fait de Borges. Et ça s'intitule « L'écriture du Dieu ». Ça, c'est bien du Dieu et non pas de Dieu. Mais avant que je le lise, vous nous avez dit que vous avez connu Borges. Donc, c'est juste deux mots sur cette rencontre.
Il voulait me connaître et je suis allé le chercher à son hôtel. Je l'ai amené chez moi. Il a passé toute la journée. Et puis, nous nous sommes revus par la suite. Oui, bien sûr, c'est un merveilleux personnage. Pour vous citer un mot de lui, à cette époque, je venais d'aménager dans une maison qui était en travaux. Je suis allé le chercher, je l'ai amené, il était déjà aveugle, il était à mon bras. Et en rentrant tout bêtement, je lui dis, excusez-moi, la maison est en désordre, nous sommes en travaux, comme s'il pouvait l'avoir. Et il m'a répondu cette phrase magnifique, oui, je comprends, c'est un brouillon. C'est-à-dire, tout devenait littérature avec lui.
Oui, absolument.
Tout devenait écriture.
Et d'ailleurs, je crois que vous adhéreriez à ce qu'il avait dit, la réponse qu'il avait donnée à un journaliste qui lui avait demandé si ce qu'il avait écrit était réel. Et il a répondu, mais bien sûr, puisque je l'ai écrit.
Oui.
Alors là, c'est donc l'écriture du Dieu, c'est un des petits récits de l'Aleph, dont le personnage principal est Tzinakan, un mage de la pyramide de Kaolom, au Mexique, pays que vous aimez particulièrement, et vous en avez même fait un dictionnaire amoureux. Et donc, c'est un mage qui a été torturé par les Espagnols pour donner le lieu d'un soi-disant trésor qui aurait été caché. Il n'a évidemment rien dit, et il est en prison depuis des années. Et dans cette prison, il réfléchit pour savoir où il pourrait trouver véritablement ce qui serait une écriture de Dieu, un chiffre de l'univers dans lequel la vérité pourrait se révéler à lui, mais la vérité telle qu'il la conçoit en tant que, évidemment, mage, indien, mexicain, païen. Et on va voir que finalement, il va le voir dans le pelage du tigre, parce que c'est quelque chose qui se reproduit et qui va devenir une sorte de macrocosme pour lui de tous les secrets de l'univers. Alors arriva ce que je ne puis oublier ni communiquer. Il arriva mon union avec la divinité, avec l'univers. Je ne sais si ces deux mots diffèrent. L'extase ne répète pas ses symboles. L'un a vu Dieu dans un reflet, l'autre l'a perçu dans une épée ou dans les cercles d'une rose. Moi, j'ai vu une roue très haute, qui n'était pas devant mes yeux, ni derrière moi, ni à mes côtés, mais partout à la fois. Cette roue était faite d'eau et aussi de feu, et elle était, bien qu'on en distinguât le bord, infinie. Entremêlée, la constituaient toutes les choses qui seront, qui sont et qui furent, et j'étais un fil dans cette trame totale, et Pedro de Alvarado, qui me tortura, en était un autre. Là résidaient les causes et les effets, et il me suffisait de voir la roue pour tout comprendre, sans fin. Oh, la joie de comprendre, plus grande que celle d'imaginer ou de sentir. Je vis l'univers et je vis les desseins intimes de l'univers. Je vis les origines que raconte le livre des conseils. Je vis les montagnes qui surgirent des eaux. Je vis les premiers hommes qui étaient de la substance des arbres. Je vis les jarres qui attaquèrent les hommes, je vis les chiens leur déchirant le visage. Je vis le Dieu sans visage qui est derrière les dieux. Je vis des cheminements infinis qui formaient une seule béatitude, et comprenant tout, je parvins aussi à comprendre l'écriture du tigre. Je crois que, étrangement, ça résume beaucoup de choses que nous avons dites depuis le début de cette émission sur l'origine, sur le mythe, sur l'expression, sur le fait que chacun a un symbole pour représenter pour lui le sens de l'univers.
Oui, la signature de ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui nous donnerait ce que d'autres appellent la clé de l'univers. Ce qui m'a toujours frappé dans ce très beau texte, c'est que vous savez que Borges a écrit un livre sur le bouddhisme.
Oui.
Et c'est l'aspect bouddhique et même hindouiste de la roue. C'est-à-dire que l'image même de la roue, elle vient vraiment de l'Inde. C'est à cette différence près que dans l'hindouisme, il y a un moyeu à cette roue, tandis que dans le bouddhisme, il n'y en a plus. Nous ne sommes plus qu'un rayon de la roue, ce rayon étant peut-être le seul rayon de la roue qui peut mettre la roue tout entière en danger. Là, on le retrouve, ce sentiment intense d'unité dont nous avons déjà parlé, et de nous, responsables de l'univers, comme c'est le cas déjà dans l'hindouisme. L'image de la roue qu'il prête là à un prêtre mexicain, un prêtre...
Les Indiens de l'autre côté.
Oui, je crois qu'elle venait en réalité, peut-être dans le subconscient de Borges, de l'Inde.
Et on voit que, justement, mais il y a, en même temps, il y a une universalité. Parce que je pense que, effectivement, oui, chez les Amérindiens, la roue... J'étais frappée de lire qu'ils n'utilisaient pas la roue techniquement, mais qu'ils en avaient une représentation religieuse.
C'est-à-dire qu'ils l'utilisaient dans des jouets.
Voilà, absolument.
Mais comme ils n'avaient pas d'animaux de trait, ils n'avaient aucune raison d'inventer la roue. À quoi bon ?
Dernière question, parce qu'après on va... Dernière question.
Mais pas la dernière réponse. J'adore cette histoire de l'ermite chrétien qui court dans le désert. C'est une image du 4e siècle de notre ère et qui crie « J'ai une réponse. Qui a une question ?»
Formidable. Eh ben,
on en connaît beaucoup des comme ça.
On pourrait peut-être terminer sur un conte spirituel, parce que j'ai parlé du Cercle des Menteurs, c'est ces deux livres formidables. Racontez-nous une histoire comme ça, religieuse, un conte que vous avez pris dans ces différentes traditions, qui se recopient d'ailleurs très souvent les uns les autres, qui vous a particulièrement marqué, et on pourrait terminer cette émission sur une petite histoire.
Il y en a une que je trouve magnifique et qui m'a été racontée en Belgique, alors que je l'ignorais. C'est un homme très riche qui amène son fils au sommet d'une colline et qui lui dit « Regarde, un jour tout cela sera à toi ». Et un homme très pauvre amène son fils au sommet de la même colline et lui dit simplement « Regarde ».
Cette émission des Racines du Ciel se termine avec l'agenda culturel, Lélie.
Oui, je voulais donc signaler la publication d'un livre chez Democratic Books, un livre que vous avez fait avec le photographe Reza, oui, et qui s'intitule « L'envol ». On y revient, la conférence des oiseaux.
En réalité, c'est un peu une adaptation photographique de la conférence des oiseaux.
Et alors, c'est vrai
magnifique
que c'est...
photo de Reza. Ouais.
Et alors, vous venez de dire « Regarde
oui. ».
Eh bien, c'est
ah,
un
oui.
livre qu'il faut à la
à
fois vraiment lire pour les petites citations de la conférence des oiseaux que vous y avez mises, mais surtout qu'il faut regarder, et je dirais même plus, contempler. Et je suis saisie par moments, effectivement, de cette intimité qu'il y a entre ce texte qui est du XIIe siècle, du début du XIIIe siècle, et ces images du monde d'aujourd'hui que Reza a capté partout dans le monde. Et brusquement, on voit ce fil continu qui unit
étonnant,
tous les humains les uns aux autres. Il y a des visages magnifiques, des paysages qui font véritablement contempler le sujet de la conférence des oiseaux, qui est ni plus ni moins que la quête de soi.
Et ça s'appelle l'envol.
L'envol, absolument.
Jean-Claude Carrière, j'ai dit au début de l'émission que vous veniez de publier deux livres, Désordre, aux éditions André Versailles et Mémoire espagnole chez Plomb. Dites-nous un mot en 30 secondes
alors,
de chacun de ces deux livres.
Désordre, c'est un abécédaire sur ma vie, ou plutôt un certain nombre de rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, de personnages, de pays, de thèmes, comme ça. Ça m'a évité d'écrire mes mémoires.
C'est une sorte d'autobiographie.
Oui,
alors,
d'autobiographie en désordre, c'est-à-dire en zigzag. Et Mémoire espagnole, c'est la part d'espagnol qu'il y a en moi, puisque je suis allé très souvent en Espagne, et j'ai beaucoup travaillé, et c'est une autre vision de l'Espagne que l'Espagne habituelle des clichés que nous connaissons. Et en particulier d'une Espagne où, pour terminer sur une citation de Bergamine, auteur catholique, il a dit cette phrase que je trouve magnifique, et qui est très très espagnole, « Le contraire de la vérité, ce n'est pas l'erreur. Le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge. Le contraire de la vérité, c'est la raison. » Méditons là-dessus.
Eh bien, nous resterons sur cette belle citation. Merci infiniment, Jean-Claude, d'être venu nous voir aux Racines du Ciel. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Aruna Lipsich qui nous expliquera comment incarner la spiritualité dans la relation. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.